Bonjour à chacun. C'est vraiment une joie de se retrouver tous ensemble ce matin pour un jour de fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Quel est le point commun entre Erika Castelli, Camille Denoux, Alice Grisier, Quentin Gros, Nawel Robert, Marie-Thaude Ginan, Francis Vollmar et un eunuque éthiopien du 1er siècle? En fait, ils ont au moins un point en commun. C'est que leur baptême est le témoignage de leur foi en Jésus qu'ils ont rencontré dans la Bible. Leur baptême est le témoignage de leur foi en Jésus qu'ils ont rencontré dans la Bible. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous un texte qui montre que 2000 ans après, presque rien n'a changé. La foi naît quand on rencontre Jésus dans la Bible. C'est ce qu'on va lire ce matin dans le livre des Actes. C'est le livre qui raconte les débuts de l'Église. Au chapitre 8, je vais lire à partir du verset 26. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera ? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela ? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole, et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route, tout joyeux. On est au 1er siècle de notre ère. On est tout au début de l'Église chrétienne. Et cette toute jeune Église chrétienne vient de subir un coup dur. Étienne, le premier martyr, vient de mourir à cause de sa foi. Et si on regarde au début du chapitre 8, là où on vient de lire, on lit qu'après cet événement, tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'étaient les régions qui entouraient Jérusalem. Et ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et on voit ici un renversement. On avait voulu écraser l'Église. Mais par cette persécution, c'est l'inverse qui se produit. L'Évangile se répand, la bonne nouvelle de Jésus se répand encore plus vite et encore plus loin. Et le texte, ce matin, nous parle d'un eunuque éthiopien. Si vous ne savez pas ce que c'est un eunuque, vous demanderez à vos parents. On apprend que c'était un homme d'un rang élevé, puisqu'il était, on nous dit, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. On devine aussi que ça devait être quelqu'un de très riche. Pourquoi ? Parce qu'il possédait son propre rouleau d'Ésaïe. Alors qu'à cette époque, cela coûtait extrêmement cher. Et on lit qu'il revenait de Jérusalem parce qu'il était parti adorer. Sûrement, c'était lors d'une des grandes fêtes juives de l'époque, où, trois fois par an, les Juifs revenaient à Jérusalem pour adorer et fêter ensemble. C'était donc un homme riche, de rang élevé, et qui adore le Dieu des Juifs. Et dans sa conversation avec Philippe, l'eunuque va lui poser trois questions. Et j'aimerais que ce matin, on s'arrête ensemble sur ces trois questions. La première question, comment comprendre ? Philippe, c'était un chrétien de l'église de Jérusalem. Et en s'approchant du char de cet Éthiopien, il entend qu'il est en train de lire un passage du prophète Ésaïe. Et Philippe demande à cet homme, est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et en lisant ça, j'ai mis un point d'interrogation devant le texte. J'ai dit, pourquoi il demande ça ? On ne sait pas pourquoi il demande ça. Enfin, moi, j'ai une petite idée. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que cet homme faisait une drôle de tête en lisant ce rouleau. Vous savez un peu la tête que feront beaucoup d'étudiants demain matin en découvrant le sujet du bac de philo. Vous savez, on comprend les mots, mais on ne comprend pas le sens. On relit plusieurs fois la phrase. Nos yeux se plissent. Notre concentration s'accentue. Notre cerveau fume. Ou peut-être que Philippe avait été dans la même situation que cet homme et qu'il avait lui aussi, à un moment donné, lu ce prophète Ésaïe ou lu une autre partie des écrits des Juifs, et que lui aussi n'avait pas compris. Il avait fallu pour lui aussi que quelqu'un lui explique le sens de ce qu'il lisait. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, ici, vous avez peut-être essayé d'ouvrir la Bible une fois ou deux. Je connais beaucoup de personnes qui ont essayé de la lire pour une raison ou pour une autre, et qui ont vite arrêté parce qu'ils étaient découragés. Et c'est vrai qu'elle est parfois difficile à comprendre. Il y a des passages qui ne sont pas faciles. Et c'est exactement ce que vivait cet homme dans ce récit. Il lisait le rouleau, et sûrement qu'il le lisait avec attention, parce qu'il avait dû dépenser beaucoup d'argent pour l'avoir. C'était aussi quelqu'un de très religieux, puisqu'il allait à Jérusalem pour les grandes fêtes. Mais de son propre aveu, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et il pose cette première question. Comment je pourrais comprendre si personne ne m'explique ? Et c'est une excellente question. Et si vous voulez comprendre le message de la Bible, demandez à un ami chrétien. Si vous êtes venu aujourd'hui avec quelqu'un qui vous a invité, demandez-lui de vous expliquer le message de la Bible. Et si vous connaissez personne qui pourrait vous l'expliquer, venez nous voir. On sera vraiment une joie de voir avec vous le merveilleux message de la Bible. On est là tous les mercredis après-midi, c'est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus, venez. À chaque fois que je lis ce récit, il y a une chose qui me frappe. On lit au début du récit que un ange apparaît à Philippe pour lui dire de se rendre à un endroit où il va rencontrer cet Éthiopien qui lit Ésaïe. Et à chaque fois, moi, je me demande, mais Pourquoi Dieu n'a pas envoyé son ange directement à l'Éthiopien? On gagne du temps. Philippe, il faut faire autre chose en attendant. Et puis franchement, moi je trouve ça plus efficace. Moi j'imagine, si je vois un ange directement, je suis convaincu direct. En tout cas, ça me paraît plus efficace, à vue humaine, que quelqu'un qui vient m'expliquer un texte. Mais Dieu ne choisit pas ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire, ça ne veut pas dire que Dieu ne le fera jamais, mais seulement ce n'est pas la manière ordinaire dont Dieu a choisi de se révéler aux hommes. Dieu a choisi de se révéler dans sa parole. Et il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes pour communiquer et expliquer sa parole. Et quand quelqu'un me dit, moi aussi j'aimerais bien avoir la foi, moi aussi j'aimerais bien connaître Dieu, je réponds toujours la même chose. Découvre la Bible avec un chrétien. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen par lequel Dieu a choisi de se révéler. Deuxième question, de qui parle-t-on? L'eunuque pose cette question, mais d'accord, on lit ça dans le prophète Ésaïe, mais Ésaïe parle de qui? Est-ce qu'il parle de lui-même ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et à partir de ce texte, nous dit ce passage, Philippe va expliquer à cet homme la bonne nouvelle de Jésus. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais une petite idée de la raison pour laquelle Philippe pose cette question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je pense que Philippe voulait lui montrer que ce qu'il lisait concernait Jésus. Peut-être que Philippe avait fait la même expérience. Que la vie, la mort et la résurrection de Jésus avaient donné un sens nouveau, avaient transformé sa manière de voir et de comprendre les Écritures. Des Écritures qu'il connaissait probablement depuis qu'il était tout petit, qu'on lui avait enseigné. Mais à un moment donné, tout a pris un nouveau sens. Parce que Jésus est la clé qui nous aide à comprendre la Bible. Parce que toute la Bible nous parle de Jésus. Et que d'un coup, quand on comprend qui est Jésus, toute la Bible prend un autre sens. Tout ce que les prophètes avaient annoncé, et que peut-être Philippe lisait sans comprendre le sens, devenait maintenant clair, parce qu'il avait la clé d'interprétation. Et cette bonne nouvelle de Jésus que Philippe annonce à cet eunuque éthiopien, c'est cette même bonne nouvelle, aujourd'hui, qui a changé la vie des baptisés, et qui les a poussés à se faire baptiser aujourd'hui. J'aurais tant aimé être dans ce char. Et s'il n'y avait pas de place, je ne sais pas quelle taille il faisait, j'aurais essayé de courir. J'espère que l'explication aurait duré pas trop longtemps quand même. Mais j'aurais aimé être là pour entendre la manière dont Philippe a expliqué à cet homme comment Ésaïe parlait de Jésus. Et je ne sais pas exactement ce qu'il a pu lui dire, mais c'est probable qu'il est parti de ce rouleau qu'ils avaient devant eux pour expliquer les choses. Et peut-être qu'il y a montré la manière dont Ésaïe, dans son livre, parle d'un curieux personnage. Il parle d'un roi qui est serviteur, et d'un serviteur qui est à la fois un roi. Et Ésaïe, dans son livre, dit beaucoup de choses à propos de ce roi serviteur. Mais il y a une chose qui est particulièrement remarquable. Une chose sur laquelle, à mon avis, Philippe a dû insister, c'est qu'Ésaïe annonce que ce serviteur allait souffrir. Et c'est exactement ce que Pascal nous a lu tout à l'heure quand il a lu un bout du chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Le serviteur, annonce Ésaïe, sera méprisé et abandonné des hommes. Pourquoi souffre-t-il? Ésaïe explique, parce qu'il a porté nos souffrances et nos douleurs. Et si on le met à mort, ce n'est pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'il s'est chargé de nos fautes. Il est humilié. Il est conduit à l'abattoir comme une brebis. Il est mort, quoiqu'il n'ait pas commis de fraude et qu'il n'y ait aucune parole mauvaise dans sa bouche. Dans quel but ? Peut-être qu'au cours de cette explication, l'Éthiopien a posé plein de questions. Mais pourquoi ? C'est pas juste. Et si c'est un roi, pourquoi il meurt ? Et si c'est un serviteur, pourquoi il règne ? Et s'il est innocent, pourquoi il meurt ? Pourquoi il meurt alors qu'il est innocent, pour que nous ayons la paix avec Dieu ? Lui, innocent, il est mort pour des coupables. Parce qu'il a porté nos péchés. Et 8 siècles avant Jésus-Christ, c'est de lui dont Ésaïe parlait dans les prophéties. C'est ça que Philippe est en train de montrer à cet homme. Et pour les premiers chrétiens, c'est clair. Ésaïe parle de Jésus-Christ. Peut-être vous avez entendu parler de Pierre. Pierre, c'était un gars zélé. Il se croyait un peu le garde du corps de Jésus. Il a même coupé l'oreille de quelqu'un qui menaçait Jésus. Il était chaud. Ça veut dire zélé. Et Pierre avait suivi Jésus dans tout son ministère. Il l'avait accompagné. Mais on apprend que au moment où Jésus va être condamné et va mourir, Pierre le renie par 3 fois. Il abandonne Jésus. Mais quand il voit Jésus ressuscité et quand il comprend enfin qui est Jésus, ça transforme sa vie. Alors qu'il avait renié Jésus pour garder la vie, maintenant il est prêt à mourir pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce qui va se passer. Pierre mourra parce qu'il a proclamé la bonne nouvelle de Jésus. Et pour Pierre, c'est clair. Ésaïe parlait de Jésus quand il parlait de ce serviteur roi. Dans une de ses lettres, il dit « Celui qui n'a pas commis de péché, Jésus-Christ, lui, il a porté nos péchés en son corps sur la croix. » Pour nous libérer du péché et pour que nous vivions pour la justice. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus dont parle ce texte. C'est le message de la Bible. Que Jésus est mort à notre place pour que par la foi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ésaïe et Pierre utilisent une autre image. Ils disent, nous étions comme des brebis égarées. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le bon berger. Troisième et dernière question de cet eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Tout ce que je viens de vous dire, c'est probablement, en substance, ce que Philippe a dû expliquer à cet homme. Le texte ne le dit pas. Mais ses yeux ont dû s'ouvrir. Il a dû enfin comprendre ce qu'il lisait. Il a enfin trouvé ce qu'il recherchait. Il a enfin rencontré Jésus dans la Bible. Et à ce moment-là, il pose cette question. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il avait compris qui est Jésus. Et il voulait le montrer en se faisant baptiser. Et c'est ce qu'on va entendre dans les témoignages tout au long de cette belle journée. Que le baptême n'est pas quelque chose que nous devons faire par tradition familiale, ni par pression extérieure. Ce n'est pas non plus un acte magique ou quelque chose de superstitieux. C'est un engagement personnel et volontaire. Le baptême, c'est le témoignage d'une foi qui naît quand on rencontre Jésus dans la Bible. Le témoignage d'une foi qui naît quand on rencontre Jésus dans la Bible. Et si Erika, Camille, Alice, Quentin, Nawel, Marie et Francis se font baptiser, c'est parce que, comme cet Éthiopien, ils ont rencontré Jésus et que cette rencontre a changé leur vie. Et c'est de ça dont ils vont vous témoigner tout à l'heure. Ils ont compris cette bonne nouvelle, ils ont compris que Jésus est mort à leur place pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu, qu'ils étaient coupables devant Dieu, mais que Jésus a payé pour eux. Le char s'arrête, nous dit le texte, et Philippe et l'eunuque descendent dans l'eau. C'est exactement ce qui va se passer tout à l'heure. Depuis 2000 ans, rien n'a changé, à part le spa gonflable. Comme l'homme dans notre récit, ceux qui vont se faire baptiser vont être plongés dans l'eau. Et ça, c'est un acte symbolique très fort. Pourquoi ? Parce qu'en plongeant dans l'eau, on s'identifie à la mort de Jésus dans le tombeau. Et en sortant de l'eau, on s'identifie à sa résurrection. On dit à tout le monde qu'on a une nouvelle vie. Une nouvelle vie avec Dieu. Et qu'on vit cette vie nouvelle, enfin. C'est la dernière fois dans la Bible qu'on entend parler de cet homme, cet eunuque éthiopien. On ne sait pas ce qu'il est devenu. La seule chose qu'on sait, c'est le dernier verset qui nous le dit, c'est qu'il poursuivit sa route tout joyeux. Quand on rencontre Jésus, on est tout joyeux. Et c'est pour ça que c'est une journée de fête, une journée de joie. Parce que cette bonne nouvelle nous transforme et nous donne cette joie. Ça ne veut pas dire que les baptisés ne seront jamais tristes. Ça ne veut pas dire que leur vie sera toujours rose. Ça veut simplement dire que dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est la joie de Dieu qui va les caractériser. Parce que en prenant le baptême, ils manifestent qu'ils sont bénéfices de cette bonne nouvelle de Jésus, qu'ils étaient comme ces brebis qui étaient égarées, mais que Dieu les a ramenés près de lui. Et c'est de ça dont ils vont témoigner tout à l'heure. Et si ce matin, certains d'entre vous sont peut-être venus et recherchent Dieu, peut-être secrètement, peut-être que vous n'en avez parlé à personne, j'aimerais vraiment vous inviter à faire la même expérience que cet homme-là. La même expérience que tous ceux qui vont se faire baptiser tout à l'heure. C'est dans la Bible que Dieu se révèle. Demandez à un ami de l'ouvrir avec vous, de vous l'expliquer, de vous expliquer le message de la Bible, parce que aujourd'hui encore, Dieu se révèle dans sa parole. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que tu t'es révélé à Erika, à Camille, à Alice, à Quentin, à Nawel, à Marie, à Francis et à bon nombre d'entre nous ce matin. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux et nous avons pu voir que Jésus est cette bonne nouvelle que ta parole nous annonce et que cette rencontre a transformé notre vie. Merci pour ce message que Jésus est mort, qu'il a porté nos péchés pour nous réconcilier avec toi. Et merci parce que ce message est le même aujourd'hui, 2000 ans après. Et merci parce que 2000 ans après, tu continues, comme pour cet homme, à te révéler dans ta parole. Et que tu te plais à te révéler. Que tu te plais à montrer qui tu es. Que tu te plais à ramener près de toi ceux qui sont égarés. Et on te bénit, Seigneur, pour cette journée de joie. On te bénit pour la fête que nous vivons. Et on sait qu'autour de toi, c'est encore plus la fête. On te dit merci, Seigneur, d'être les témoins encore ce matin de ta grâce et de ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.